Et bonsoir, il est 20h, vous êtes sur Radio Lodève et vous écoutez Du bruit dans les feuilles, l'émission de radio de l'association Pays-Arbres. Nous sommes quelques-uns dans le studio et on va commencer par se présenter. C'est toujours Tanguy à la manœuvre, accompagné aujourd'hui de Raphaël.
Bonsoir, bonsoir.
Et également de Antoine.
Bonsoir.
Et de Marie. Alors Antoine et Marie, ils sont venus avec nous pour croiser avec nous nos thèmes de prédilection. Et ils ont plusieurs casquettes, on parlera avec eux un peu plus tard. Mais juste pour vous présenter, alors vous êtes maraîcher sur la région de Lodève. Vous vendez votre production au marché le samedi matin. Et puis vous êtes aussi membre des semeurs du Lodévois Larzac. Et voilà, c'est un peu pour ces deux raisons qu'on vous a invité.
Très bien, merci. Merci de l'invitation déjà. Et puis oui, on parlera un petit peu plus tard de toutes ces choses-là.
C'est ça. Bienvenue à vous.
Bienvenue à tous. Commençons tout de suite par parler d'un arbre que l'on voit beaucoup en Provence. C'est de celui-là dont tu vas nous parler, j'imagine, le cyprès.
Je vais vous parler du cyprès. Alors, pour moi, c'est un peu... J'avais envie de parler du cyprès. C'est lié aussi à un coup de cœur que j'ai eu pour un livre que je viens d'achever. Et donc, je vais vous parler des deux à la fois, du cyprès et de ce livre... Qui pour moi était assez assez intéressant parce que c'était une autre approche. Je consulte beaucoup de littérature qui parle d'arbres, c'est un peu mon obsession. Et voilà. Et Josiane m'a envoyé un petit mail il y a deux mois en disant ce livre a été republié. Ça s'appelle Des arbres et des hommes. C'est publié chez Edisud et c'est publié. Donc c'est l'auteur, c'est Josiane Hubaud.
Hubaud.
Hubaud, exactement. Josiane, elle est intéressante. Donc, elle fait un travail d'ethnobotaniste. Donc, elle s'intéresse particulièrement aux arbres de Provence. Et elle fait aussi tout un travail sur la langue et sur le sens en utilisant l'occitan. Donc, c'est une bonne connaisseuse de la langue d'oc. Et voilà, j'ai appris des choses qui m'ont vraiment éveillé sur le sens que peut prendre l'arbre dans le paysage. Et voilà, elle a une approche vraiment sur le signifiant et le pourquoi de pourquoi ces arbres et qu'est-ce que à travers les temps différents, à quoi servent les arbres et comment ils sont toujours des marqueurs de classe sociale. Des marqueurs de production, des marqueurs symboliques. Voilà. Et je trouve son entrée très intéressante. Et puis alors, du coup, pardon.
Juste le sous-titre. Donne le sous-titre du... Parce qu'effectivement, il décrit bien le contenu, je pense.
Alors, son sous-titre, c'est « Architecture et marqueurs végétaux en Provence et Languedoc ». Et donc, la Languedoc, c'est très important dans son livre aussi. J'ai appris une chose étonnante. Alors, moi, j'avais des interrogations. En français, tous les arbres portent des noms masculins. Et finalement, dans l'analyse des symboliques arborées, instinctivement, j'aurais envie de leur donner des attributs féminins. Parce que si on remonte un petit peu aux symboliques primaires, on va parler de la mère nature, et on va parler de ce premier dieu arboré qui a sûrement ouvert des portes, on va en parler avec le cyprès, pour l'humanité. Et j'avais vraiment une envie de féminiser ces arbres, en tout cas pour en parler. Et puis elle met le doigt sur une chose intéressante, c'est que toutes les langues romanes et latines féminisent. Donc la langue d'oc féminise tous les arbres. Tous les arbres sont féminins. Alors qu'en français, on en a déjà parlé, le seul arbre qui porte un nom féminin, c'est l'aubépine. Et pour les autres, ce sont tous des attributs masculins. Et donc elle reprend, elle, dans son livre, plutôt le nom occitan, et qui est bien souvent un nom féminin. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote étymologique.
Comment elle l'explique, ça, ce passage de l'un à l'autre?
Elle ne l'explique pas, elle le constate. Il n'y a pas d'explication sur pourquoi est-ce que la langue d'oeil, du coup, a tenu à masculiniser nos objets arborés. Pour continuer là-dessus, donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre qui est très intéressant parce que ça parle de chez nous et de ces paysages qu'on croise tous les jours. Et donc, entre autres, elle parle des arbres comme des marqueurs culturels sociaux et aussi comme des marqueurs culturels sacrés. Et ça va être le cas du cyprès. D'une manière... moi, c'est vrai que mon entrée sur les arbres, c'est vraiment le côté vivrier, les arbres qui produisent, qui font des fruits. Et c'est vrai que mes premiers regards sur l'arbre, ça va être peut-être l'objet de production, même si le sens m'intéresse. C'est vrai que j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux arbres parce que je voulais comprendre comment on menait à un fruitier et tout ça, on en parle souvent. Et ben, le sens, finalement, c'est quelque chose qu'on travaille plus tard. Et du coup, tous les gymnospermes, enfin les arbres qui ne font pas de fleurs, m'intéressent. Enfin, c'est pas vers eux que je suis allé en premier. Donc c'est vrai que cèdre, cyprès, sapin, c'est pas les premiers arbres vers lesquels je me suis tourné. Et donc ben là, je fais un petit retour sur le cyprès, une fois n'est pas coutume, et en remerciant encore une fois Madame Hubot
D'avoir attiré ton attention.
D'avoir attiré mon attention et d'avoir ouvert des portes. Voilà, parce que le cyprès, il est souvent associé, enfin je veux dire, dans la culture populaire, le cyprès c'est la mort parce qu'il y en a beaucoup dans les cimetières. Et alors Josiane a dit, bah oui, ça c'est le cas dans le nord du pays, effectivement, le cyprès est cantonné au cimetière. Mais si on regarde vraiment nos territoires languedociens, il y a un cyprès, il y a des cyprès partout. Il y a des cyprès partout, plus comme un marqueur sacré. Voilà, alors pour parler d'abord, le cyprès, c'est un arbre de culture facile, il y en a plusieurs, celui qu'on connaît le plus et qui est le plus marquant, il s'appelle sempervirens, hein, comme beaucoup d'arbres qui gardent le vert
toute l'année.
Toute l'année, merci Raphaël. Et donc on a celui en fuseau qui est très utilisé, et puis celui qui se ressème spontanément et qui peut avoir un aspect subspontané, c'est plutôt une sous-espèce qu'on appelle horizontalis, parce qu'il va commencer à faire des branches qui vont un peu s'étaler. Alors que le cyprès traditionnel de marqueur de paysage va garder son côté en fuseau. Mais c'est la même espèce, c'est des sous-espèces tout ça. Donc on est toujours dans ce cyprès, c'est un arbre qui vit très longtemps, donc qui est toujours vert, donc qui rejoint la symbolique du sapin de Noël, du renouveau, de la vie qui est toujours là, même quand elle semble disparaître pour les arbres à feuilles caduques. Et surtout, ben, il symbolise cette porte. Plus que la mort, finalement, le cyprès va symboliser la porte, va symboliser le passage. Et on dit que le temple d'Éphèse, une des huitièmes merveilles du monde, donc le temple qui était dédié à Artémis, Artémis elle-même, digne descendante de la mère nature dans les cultes primitifs, et ben justement la porte du temple d'Artémis était faite en cyprès. De la même manière, je crois que certaines portes de la vieille Rome étaient aussi faites de cyprès. Donc ce cyprès, ben alors bien évidemment, le bois est connu de tous ceux qui travaillent le bois en menuiserie et tout ça, parce que c'est un bois imputrescible. C'était aussi le bois dont on faisait les cercueils, parce que voilà, il évite le pourrissement. Il était utilisé dans l'embaumement, auprès pour les momies, tout ça, c'était une essence très utilisée. La matière médicale s'en est servie aussi, et encore dans les pratiques populaires, je crois que la décoction des fruits du cyprès traite les hémorroïdes, les choses comme ça, comme le maron-dinde. Voilà, c'est un arbre qui a eu beaucoup d'usages. Mais alors Josiane, elle insiste vachement sur le fait que finalement c'est un marqueur de paysage, et on marquait finalement les lieux importants, les lieux où on avait à aller, et donc il marque aussi bien les croisées, où souvent ben, derrière, peut-être après les cyprès, les religions monothéistes sont venues installer des croix, mais peut-être que le cyprès était là avant. Il marquait aussi les points d'eau, les puits, les résurgences, et bien sûr ici il marquait souvent les mazets, donc les mazets en campagne étaient souvent marqués aussi du cyprès. Donc y voir plutôt un marqueur, y voir plutôt un arbre qui va symboliser, moi j'aime bien le rite du passage, quoi. J'aime bien l'idée de la porte, et puis finalement quand on commence à avoir une conscience un peu cosmique, c'est ça ce à quoi nous invitent les arbres, ben la mort ça n'est qu'une porte, c'est un passage, mais la vie continue. Et voilà, c'est des bois qui symbolisent tout ça. Donc voilà, je vais pas m'étendre trop, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Pour moi, ça, c'est vraiment mon coup de cœur du mois. Et puis on va continuer cette émission parce qu'on est nombreux. Il y a Antoine qui voulait rajouter quelque chose.
Oui, peut-être. Je ne sais pas si le propos est traité dans ce livre, mais nous, chez nous, en tout cas, on a ce type d'arbre. Et moi, j'ai remarqué que les écureuils se servent souvent de support, soit pour faire leur nid ou pour manger. Je crois qu'ils trouvent une source de nourriture assez intéressante pour eux à une époque où il en manque. Mais je ne sais pas si si ce propos est traité.
Non, j'ai pas souvenir que Josiane parle des écureuils ou parle du cyprès comme d'un apport de nourriture. Mais c'est bien possible parce que, bah, comme les fruits des conifères, ça garde cette graine nue et bien planquée finalement dans les cônes et peut-être que du coup c'est une conserverie naturelle.
En tout cas, à Paysarbre, de plus en plus, on parle, enfin de plus en plus, ou en tout cas, on est, je trouve, assez sensible à l'ethnobotanique ou à l'ethnoécologie. Parce que pour moi, c'est vraiment une approche scientifique qui fait le lien entre tous ces aspects de considérer l'arbre dans l'arbre fruitier ou l'arbre non fruitier dans sa fonction, dans ses usages matériels, on va dire, et aussi dans sa dimension symbolique, sacrée, religieuse, spirituelle. Et l'ethnobotanique fait vraiment ce lien-là. Et je trouve que c'est, enfin moi, on a déjà eu des interventions à la petite fête de l'arbre de la part de Geneviève Michon, qui avait aussi cette étiquette-là d'ethnobotaniste. Et voilà, Josiane enrichit notre connaissance. Et je trouve, voilà, c'est une vision globale de l'arbre et de ses usages et de ses fonctions dans la société humaine. Je trouve ça très intéressant, cette approche.
Mais ça l'est, ça l'est. Monsieur Lyotagui, que je cite souvent, fait aussi partie de, ça, cette, ouais. De cette approche visionnaire.
Andiamo, andiamo. Dicton du mois. Le dicton du mois, c'est un dicton d'avril. Fleur d'avril ne tient qu'à un fil.
Alors, voilà. En général, on commente le dicton.
Voilà, qu'a-t-il à dire ?
Non, mais j'explique parce qu'on a des invités, alors soyez pas surpris. Fleur d'avril ne tient qu'à un fil, tout est dit là, hein. Et on en parle souvent, voilà, quoi de plus fragile qu'une fleur, hein. C'est vrai que tout peut se passer, là on vient d'avoir plusieurs épisodes de grêle sur la fin mars, début avril, voilà, des pluies violentes, et ben tout ça peut mettre à mal une floraison. Surtout si vous avez des périodes qui se prolongent dans le temps, 10 jours de Mistral, voilà. Et tout ça, évidemment, ça peut croiser le mois d'avril. Et donc, encore une fois, on n'arrête pas de le dire, l'arboriculture, c'est délicat.
Et d'autant qu'on n'est pas encore en mai et que les saintes glaces ne sont pas encore passées, effectivement. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver à la fleur et aux futurs fruits. Voilà.
Oui, alors nos saintes glaces, on a rarement du gel début mai ici, mais l'an dernier, ça arrive.
Et l'an dernier, dans l'Aude, il y en a eu beaucoup. Ici aussi, d'ailleurs. Passons à la pause musicale. Donc, c'est Pierre Bachelet qui va nous parler du paysan.
Ils sont venus sans savoir ma chanson. Ils ont vu toutes les terres, la maison. Le notaire s'est assis au soleil. Pour bien faire, j'ai sorti les bouteilles. Ils ont vu toutes les terres, la maison. Ils ont bu sans savoir ma chanson. Y'a des jours où je voudrais être coq et gueuler comme un chanteur de rock, réveiller tous les cons de la terre, les banquiers, ministres et ministères. Ils sont venus visiter ma maison. Ils l'ont vu sans savoir ma chanson. Paysan, tu es paysan. Tu seras la chaleur l'été et l'hiver le froid. Paysan, tu es, on te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plantera. Ils ont pris sans savoir ma chanson. Les crédits bilan d'exploitation. Les banquiers se sont mis sous la traîne. Les banquiers, ça n'aime pas le soleil. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison. Ils l'ont dit sans savoir ma chanson. Y a des jours où je voudrais être un cheval et partir une bonne fois en cavale. Y a des jours où je voudrais être un chien, sans collier, sans tatouage et sans rien. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison. Mais pour moi, j'ai gardé ma chanson. Paysan, tu es, paysan, tu seras. La chaleur, l'été et l'hiver, le froid. Paysan, tu es, tu le resteras. On sait ce que l'on est, on ne sait pas ce qu'on sera. Plaine, oh ma plaine, toi qui connais ma chanson, tu sais ma peine et ma passion. La terre est un destin qui gronde et la raison est si profonde. Paysan, tu es, paysan, tu seras. On voudrait changer, on ne change pas. Paysan, tu es, on te tuera pas. S'il n'y a plus de blé, qui le plantera? Paysan, tu es, paysan, tu seras. La chaleur dans l'été et l'hiver, le froid.
Et voilà, merci Pierre Bachelet. Et alors, on était en train de se dire pendant la pause qu'on avait sûrement déjà passé cette chanson. On a des thématiques comme ça un peu récurrentes. Et c'est vrai qu'on est sensible à la paysannerie, hein.
Mais si vous avez des chansons à nous proposer, à nous suggérer, n'hésitez pas, dans toute langue, autour de nos thématiques habituelles, n'hésitez pas, hein. Ça nous évitera la répétition. Ah, elle a pas bien sonné ma cloche parce que je l'ai pas tenue par le bon bout. Pour vous annoncer qu'on passe à la chronique ce mois-ci au verger. Ce mois-ci au verger, on est plutôt sur le travail du sol, l'entretien, le paillage.
Oui, et puis sur l'observation, hein, c'est on en parlait tout à l'heure avec le dicton, c'est-à-dire qu'on est pour les vergers, on approche où on est, où on a passé la période des floraisons. Derrière la fleur, tout va très vite, hein, la nouaison, elle est quelques jours après, et le fruit, au bout de deux, trois semaines après la fleur, on voit déjà, on sait déjà la récolte, quoi, hein, ça vient très vite, donc il y a tout un côté, on observe un peu ce qui se passe au verger.
Nouaison.
La nouaison, c'est le moment où la fleur est fécondée finalement et où le
fruit se forme.
Le fruit commence à se former, donc la fleur se fane et puis vous voyez très très vite si soit la fleur tombe complètement et votre fruit n'a pas été, enfin la fleur n'a pas été fécondée et donc l'ovule n'a pas reçu ses gamètes mâles, soit ça a été bien fait. Vous avez eu quelques beaux jours, vous avez eu quelques abeilles ou autres insectes pollinisateurs. Soit votre arbre est capable d'autofécondation. Enfin bon, si tout ça s'est bien passé, la nouaison, ça c'est juste ce qui vient après. Et finalement, fin avril pour certaines essences, on sait déjà quelle sera à peu près la récolte, en tout cas si c'est bien parti. Et puis sinon, on est sur le printemps, c'est-à-dire que la grande symphonie végétale va commencer avec beaucoup d'abondance et aussi beaucoup d'abondance de petites plantes qui vont pousser au pied. Alors si, je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez des jeunes arbres, que c'est leurs premières années dans vos jardins, faites bien attention aux graminées qui se développent beaucoup en ce moment. Elles vont concurrencer, elles vont prendre la ressource de vos jeunes arbres à hauteur de 30 ou 40%. Donc vraiment le paillage, on insiste beaucoup là-dessus, mais on n'insistera jamais assez, du paillage qui vaut aussi amendement, hein, sur la longueur si vous utilisez des paillages naturels. Et ça peut être n'importe quoi, du broyat, du carton, des vieux habits, que sais-je encore. Voilà, ça nourrit les arbres, ça évite la pousse des plantes qui vont le concurrencer. Et ça, vraiment, c'est les soins de printemps, hein. Il faut mettre tout ça un peu propre avant l'explosion et l'abondance végétale qui, là, on est parti, hein. Chaleur, humidité. C'est parti. Mais alors là, je vais me tourner vers mes invités quand même qui ont un petit regard aussi sur les travaux qu'ils font en ce moment. Et je crois savoir aussi que vous avez pas mal d'arbres fruitiers sur votre domaine. Alors, est-ce que vous pourriez, ça peut être l'occasion un petit peu de faire le pont aussi avec vous. Est-ce que vous avez des arbres fruitiers et...
Oui, on a des arbres fruitiers, c'est même le gros de la surface cultivée en ce moment. Parce qu'on est en train d'étendre pour plus de maraîchage, mais c'est...
Alors, est-ce que c'est des zones vraiment des vergers, comme on entend de manière assez moderne, ou est-ce que c'est des arbres qui parsèment votre terrain? Et est-ce que vous cultivez... Enfin, ma question, c'est est-ce que vous cultivez proche de l'arbre, ou est-ce que vous sacralisez la zone de l'arbre sans légumes? Parce que je sais que vous produisez aussi pas mal de légumes. Et du coup, ça m'intéresse de voir un peu comment vous vous organisez.
Alors nous, en fait, l'exploitation, j'aime pas trop ce terme-là, mais disons que l'espace cultivé et l'endroit où on habite est vraiment structuré comme en agroforesterie, donc avec principalement des arbres dits d'ornement, mais en fait des arbres de forêt, enfin des chênes, ce genre, des cyprès notamment aussi. Donc on a une première couverture qui est constituée de ce genre d'essence. Sous cette couverture-là, on va avoir des plantations de fruitiers, mais qui ne seront pas conduits dans un mode de verger, qui vont être un peu disséminés à droite à gauche. Et sous ces fruitiers, on cultive les légumes. Donc ça va être une succession comme ça de couches qui nous permettent à nous d'avoir à la fois une ombre portée qui est bénéfique pour les légumes l'été, et un tampon thermique l'hiver. Donc cette couverture-là nous évite le gel l'hiver et les coups de chaud l'été. En plus des amendements qui nous apportent par la chute des feuilles. Donc voilà, nous c'est un peu particulier comme système de culture, mais on y voit beaucoup d'avantages.
Qu'est-ce que c'est vos fruitiers ?
On a des pommiers, des poiriers, des pruniers essentiellement, quelques cognassiers.
Vous avez planté, vous avez greffé, ou ils étaient là depuis avant, ou comment ça ?
C'est une reprise d'activité, le lieu est cultivé depuis une quarantaine d'années. Donc tous les fruitiers ont été plantés par les précédents propriétaires. Pour le moment, nous, on n'a encore pas planté d'arbres fruitiers.
Précédemment, c'était déjà une exploitation maraîchère ?
Oui, ça faisait... les anciens propriétaires, en fait, ont cultivé cet endroit depuis une quarantaine d'années en maraîchage diversifié et en fruitier. Avec le poulailler, qui est un élément aussi assez essentiel de la ferme, notamment au niveau des amendements. Donc ça nous permet d'avoir un cycle qui se boucle, entre guillemets.
Et vous avez des projets de plantation, là? Vous parliez que vous êtes en train de vous étendre.
Oui, là, en ce moment, on défriche des parcelles en vue de les cultiver d'ici quelques années. Ça représente beaucoup de travail. On n'a pas encore un timing bien précis en tête, mais ça va venir.
Oui, parce que votre exploitation, du coup, entre guillemets, elle est quand même enserrée dans la forêt, non ? Elle est entourée par la forêt.
Oui, au cœur même de la forêt, avec tous les avantages et les inconvénients que ça implique, notamment au niveau du gibier. De la prédation qui peut nous poser quelques problèmes. Mais effectivement, le défrichage et les futures parcelles qui vont être cultivées vont être conduites sur ce mode agroforestier. Donc on a conservé déjà quelques arbres qui seront principalement des caducs et on envisage des plantations de fruitiers pour cultiver nos légumes en dessous.
Ok, c'est formidable. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est je me dis, vous avez récupéré ce terrain, il y avait déjà des arbres qui étaient restés là, c'est-à-dire les gens à qui vous avez repris, qui étaient en activité avant sur ces terres, avaient déjà un peu cette vision que j'ai envie de dire moderne, même si elle si ça nous rappelle à des temps anciens aussi, mais dans ce qu'est aujourd'hui l'agriculture, je trouve que c'est une vision assez moderne de dire, ben finalement, on va étager, on va utiliser des arbres pour faire de l'ombrage, pour faire de l'amendement, et on va faire nos légumes en dessous. Il y a encore peu d'exploitants qui prennent cette direction-là, même si on sait que de plus en plus en Méditerranée, ça va être une solution, quoi. Même si on n'a pas forcément de retour d'expérience sur toutes les productions qu'on peut faire à la mi-ombre, vous n'avez pas de problème à faire mûrir vos tomates pour autant.
Non, au contraire. Moi, je trouve que plus on avance, plus on constate que le soleil est de plus en plus dur. Ces dernières années, ça a été une succession un petit peu de sécheresses ou d'épisodes caniculaires assez marqués. Et c'est vrai que nous, à l'ombre, on a constaté que certains légumes se comportaient beaucoup mieux qu'en plein cagnard. Et c'est vraiment flagrant. C'est vraiment quelque chose qui se voit à l'œil nu. Les légumes s'acclimatent très bien. À ce manque entre guillemets de soleil, et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose, que l'ombre est profitable en tout cas à la conduite de cultures légumières.
pour faire... Pardon, Marie.
On a aussi rencontré quelques difficultés avec les arbres là ces derniers temps. Comme on cultive le sol, le travail du sol n'est pas mécanisé. Il y a des remontées racinaires. Donc on commence à peine à apprivoiser un peu ce système là où tout est intermêlé. Ça peut être un peu compliqué aussi. C'est pas...
Après, c'est vrai qu'il y a peu de retours d'expérience sur c'est des projets. Les projets agroforestiers sont relativement nouveaux. Et on a peu de retours d'expérience en fait avec entre les différentes interactions et les symbioses qui se passent entre les arbres, les fruitiers et les légumes, enfin et des cultures annuelles. Donc ça c'est je pense que c'est des pistes à explorer.
Et est-ce que vous avez constaté certaines cultures qui vraiment s'y plaisent pas dans cette ambiance ?
Non, pas vraiment, non.
C'est bien ce silence, j'aime bien.
Non, non, j'y réfléchis,
c'est
mais...
C'est la réflexion.
Ouais, parce que comme on fait quand même pas mal de diversité, mais j'ai pas d'exemple précis comme ça de légumes qui se soient vraiment pas plus à l'ombre. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, sur la maturité des tomates, ça n'a vraiment pas été dérangeant.
On a des fruits qui sont plus jolis parce que pas de brûlure et... Enfin, ça craquelle moins, c'est vraiment plus joli à l'ombre, ouais. Clairement.
Alors, pour expliquer aussi, je veux dire, on parle d'ombre, mais c'est une ombre contrôlée. Vous avez des
Bien
actions
sûr.
De taille, de manière à ce que sur certaines heures de la journée, j'imagine surtout les premières lumières du jour, impactent quand même le sol, quoi.
Ouais, alors, ouais.
On n'est pas sur une canopée fermée, on est plus sur l'idée d'avoir des parasols
aux heures les pires.
Ouais, pour les heures zénitales.
Bien sûr, même quand on est arrivé sur ce site, les anciens propriétaires avaient laissé le milieu se fermer. Et on avait une ombre qui était vraiment très très forte. Et nous, notre travail justement, ça a été de sélectionner les arbres à garder et ceux à supprimer malheureusement, mais pour permettre quand même un minimum de lumière de passer. Parce que... C'est quand même nécessaire pour...
Bah oui, c'est ça, on est d'accord. Donc c'est vraiment de la gestion de la lumière, quoi. Et c'est passionnant. Moi, j'aurais des dizaines de questions à vous poser. On était toujours dans la chronique ce mois-ci au verger pour finaliser ça et passer à la rubrique d'après, qui est nos invités, mais qu'on a déjà mélangé dans la rubrique d'avant. Juste pour vous dire, au verger, vous pouvez encore greffer vos arbres à pépins en couronne pendant encore une quinzaine de jours si vous avez pris le temps de récolter des greffons. On vous le dit souvent. Vous pouvez tailler encore, hein, et voire même sur les fruits à noyaux, c'est un bon moment pour les tailler. Le printemps, c'est le moment où ils vous en voudront le moins, même s'il ne faut pas trop toucher aux noyaux pour ces histoires de gomme et de diverses maladies cryptogamiques. Voilà, vraiment, au verger comme ailleurs, comme dans l'ensemble du jardin, c'est vraiment le moment de préparer la belle saison, celle qui pousse.
Et pour revenir du coup sur donc votre exploitation qui s'appelle les jardins de Ceriès, là on a pas mal parlé de l'interaction arbre-culture, arbre-légumes, et donc de votre conduite en agroforesterie. Peut-être que ce serait intéressant maintenant qu'on aborde aussi votre autre casquette.
Alors avant ça, juste avant ça, moi j'avais une question. Est-ce que vous faites usage de trognes ou d'arbres dits paysans pour avoir un usage régulier des feuilles ou des branches comme amendement ou litière ou autre?
Oui, là c'est le projet sur les frênes pour nourrir les poules. Elles sont vraiment friandes du feuillage des frênes.
Comme beaucoup d'élevages, enfin comme beaucoup d'autres, les
je
chèvres,
savais pas,
les
moi.
Moutons.
Je savais pas que les poules,
les
étaient...
lapins,
les lapins, ouais, mais les poules, j'avais pas imaginé. Et alors du coup, il y a des frênes sur votre propriété ou vous allez les chercher ailleurs ou comment c'est envisagé?
Il y a déjà des frênes présents qui sont pas conduits en trogne pour le moment, mais on a pour
là. Ça y est, c'est parti.
Et il supporte bien du coup le frêne qui n'a jamais été trogné?
Ouais, c'est des arbres qui réagissent relativement bien. Ouais.
Bon, il est souple.
Ils
le
sont
frêne.
Assez souples. Ouais.
Oui, du coup, tout à l'heure, je voulais faire une petite transition vers la deuxième casquette d'Antoine et Marie au sein du collectif des semeurs du Lodévois et l'Arzac, et donc qui concernerait plus du coup le côté semences, on va dire.
Oui, donc le collectif, oui, c'est un groupe de professionnels et d'amateurs, je tiens à signaler, parce que c'est... C'est aussi grâce au travail de tous les jardiniers amateurs et que le thème de la semence paysanne et que les semences arrivent à survivre. Hein. Donc oui, c'est un collectif qui travaille donc sur cette thématique-là de la semence paysanne en opposition entre guillemets aux hybrides et aux semences modernes. Donc je vais peut-être faire une petite explication rapide.
Que tout le monde entende bien. Qu'est-ce qu'on entend par semence paysanne? Parce que finalement, c'est vrai que dès qu'on dit hybride, alors en plus, aujourd'hui, il y a des termes de plus en plus difficiles, et je pense que c'est fait exprès, parce qu'avant, on disait les OGM, alors tout le monde a été d'accord pour dire les OGM, c'est pas bien, mais maintenant, il y a toutes sortes de méthodes de production, de mutagénèse, qui prennent d'autres noms, parce que les producteurs et les industriels ont envie qu'on les appelle pas OGM, alors ils les appellent CRIPS, Schloops, j'ai plus tous les acronymes en tête, mais enfin, ils nous embrouillent, hein, ils nous embrouillent, et on arrive finalement au même résultat, non?
Oui, concrètement, c'est toujours des OGM.
Alors explique-nous, hybride, semence paysanne.
En fait, c'est très simple. Un hybride, c'est le croisement donc, de deux plantes qui sont issues d'une sélection qu'on appelle des lignées pures. Donc ces lignées pures sont obtenues par sélection et donc ça met une quinzaine d'années à sélectionner ces deux lignées pures. Et une fois que ces deux lignées pures sont sélectionnées, les chercheurs les croisent et donc on obtient ce qu'on appelle un hybride F1, donc de la première génération, qui a une vigueur qu'on appelle la vigueur hybridique ou hétérosis. Et cette hybride-là, qui est donc, a des performances assez spectaculaires sur la première année de culture. Maintenant, cet hybride-là n'est pas... On ne peut pas vraiment le reproduire. Si on refait la graine de cet hybride-là, cette graine-là va dégénérer, ne va plus donner des individus stables et semblables à leurs parents.
Même si on a soin de l'interféconder.
Ouais. C'est des choses qui vont dégénérer assez rapidement.
Interféconder, ça voudrait dire quoi?
Qu'on la féconde avec elle-même.
Ok.
Et donc ces hybrides-là, qui sont souvent protégés par des certificats d'obtention végétale, donc des brevets, le paysan ne peut pas donc le refaire, on n'a pas le droit de refaire cette semence-là, et même si on la refaisait, elle ne serait plus aussi performante, et donc il est obligé de la racheter à des semenciers, voilà. Et donc dans cette catégorie de plantes, on a ce qu'on appelle les hybrides CMS, donc avec des stérilités mâles, cytoplasmique pour être clair. Donc en fait c'est un gène de radis qui a été introduit dans une des lignées pures, donc des deux parents qui composent l'hybride. Ce gène de radis là a été introduit de manière souvent forcée avec des procédés chimiques, et donc on se retrouve avec un hybride F1 de courgette par exemple, avec à l'intérieur un gène de radis. Donc on appelle ça un hybride CMS, et celui-là est carrément stérile, donc on ne peut pas le reproduire.
Et c'est un OGM.
Moi, je considère qu'une tomate qui a un gène de radis à l'intérieur, oui, clairement. J'appelle plus ça une tomate, pour être franc.
Mais et ça, c'est une hybride. Enfin, c'est une deuxième génération d'hybride.
C'est un autre type d'hybride.
Un autre type.
Oui. Maintenant, faut savoir quand même que 80-90% des maraîchers, même en bio, utilisent des hybrides par. Économiquement, c'est vrai qu'il y a des gains de production, il y a des choses, mais c'est des plantes qui sont, c'est des technologies qui sont faites et créées pour avoir un type d'agriculture qui
n'est pas autonome.
Qui n'est pas autonome d'un point de vue de la reproduction de la semence et de la préservation de la variété. Non, on peut pas. Voilà, c'est une espèce de dépossession finalement d'une partie du travail de maraîcher ou de paysan. Et donc on est obligé d'acheter donc ces semences tous les ans à des grands semenciers et de payer relativement cher pour produire des légumes qui en plus. C'est quand même des choses qui sont ici de lignée pure, et donc qui dit lignée pure dit plantes qui sont quand même assez peu résistantes, en tout cas qui ont besoin de béquilles de l'agriculture moderne pour croître dans de bonnes conditions. Quoi.
Donc, bien sûr. Et alors, sans vouloir faire taire le débat, je pense qu'assez vite, le débat sur les semences, il devient assez technique et il demande d'avoir un bagage de connaissances qu'on n'ont pas forcément les profanes, et je pense qu'on va pas rentrer trop dans les détails. Je voulais juste rajouter un mot pour dire que si vous cherchez de la ressource ou à mieux comprendre tout ce qui est hybride, OGM, et puis toutes les plantes modernes qu'on n'appelle plus OGM pour essayer de détourner la loi, ça c'est vraiment du travail des semenciers pour imposer. Ben, c'est un peu le but qu'ils ont, hein, c'est de d'avoir une mainmise sur le vivant finalement. Vous pouvez trouver toutes ces infos, et c'est à ça que je voulais en venir, auprès du réseau des semences paysannes, dont fait partie le collectif des semeurs Lodévois-Larzac. À savoir que vous êtes fédérés nationalement, et donc il y a un gros travail de ressources que vous pouvez avoir en ligne sur le site du RSP, mmh, le réseau des semences paysannes.
Mais d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'une semence paysanne ?
Ouais, j'y allais venir justement, parce que là, on parle plus d'autres. Donc la semence paysanne, par opposition à l'hybride, c'est une semence qui est libre de droit et reproductible par tout un chacun. Donc c'est des semences qui sont hétérogènes, qui ont un patrimoine génétique qui est assez varié, contrairement à l'hybride, où finalement, c'est quasiment tous des clones. Donc, on a des plantes qui vont être plus adaptées, enfin, qui vont s'adapter, en tout cas, beaucoup plus vite, qui seront multipliables, qui seront plus adaptées, plus résistantes, plus...
En libre accès.
Ouais.
Et comment ces semences paysannes, elles ne sont pas mangées, grignotées, privatisées par ces grosses boîtes qu'on ne nommera pas ? Parce que la logique voudrait que ces grosses boîtes, elles se les approprient, d'une manière ou d'une autre.
Oui, ben, en fait, si tu veux, sur une variété donnée, le semencier peut faire un travail de sélection en hybride F1. On trouve de la cœur de bœuf en tomate en hybride F1, comme on en trouve aussi en semences paysannes. Donc c'est pas vraiment la variété en elle-même qui va être paysanne ou hybride, mais c'est tout le travail qu'il y a autour de la semence. Et donc la semence paysanne, ce n'est pas qu'une semence, c'est pas qu'une graine qu'on fait pousser. Voilà, il y a tout ce qui est autour de la semence, donc tout ce qui est savoir-faire, pratique,
ça, c'est hyper,
etc. Ouais. Tout l'aspect social qu'il y a derrière.
Je trouve que c'est hyper important de bien avoir ça en tête. C'est un peu comme le bio, je trouve. Ou un peu comme tous ces labels, des fois on se dit « Ah, la tomate cœur de bœuf, ouh, miam, je mange une tomate de variété ancienne » et tout de suite on se dit « C'est formidable, j'encourage, plein de choses positives ». Et en fait non, il faut creuser un peu, et c'est comme l'alimentation, quoi. Il faut savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, se réinterroger sur qui le fait, comment il le fait, retrouver une espèce de sens du lien et de la proximité en fait. Et aller au-delà de juste l'étiquette. Le bio, oui, c'est formidable. Si ça vient de Turquie, je ne sais pas si ça a les mêmes valeurs que le... Bon, je ne veux pas du tout introduire des nuances, enfin, voilà, des hiérarchies, mais l'important de se questionner derrière l'affichage et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment est-ce que c'est fait pour de vrai, quoi.
Il y a Marie qui voulait rajouter quelque chose, non ? Non, j'ai cru voir un geste de la tête. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Que sur cette histoire de semences paysannes, moi, ça me fait beaucoup penser à tout ce qu'on peut dire régulièrement sur le greffon, sur la mémoire. Et quand on dit que pour avoir un arbre résilient, il faut essayer de travailler avec des pommes de chez soi et de greffer des variétés qu'on poussait pas loin, c'est parce que le végétal a une mémoire. Et quand on fait de la semence paysanne depuis 3 générations, on a des graines qui sont adaptées à chez nous. Ils sont adaptés à notre terrain parce que ça fait 3 générations qu'elles sont cultivées à notre endroit. Et vous aurez beau racheter la même chose ou croire que vous achetez la même chose parce que ça a le même nom, mais si ça a été cultivé à 600 km de là, vous avez pas la mémoire du végétal. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est extraordinaire. On présente les travaux de Pascal Pott, qui est Lodévois, pour le citer, qui fait un super boulot de sélection sur la tomate, mais comme si c'était un truc démentiel, et qui... alors qu'on n'est que dans du savoir simple et paysan, du bon sens, j'ai envie de dire. Du bon sens et de la connaissance du végétal, qui est de dire, mais finalement, cette hybridation permanente des variétés fait quelque chose, qu'on a quelque chose d'hétérogène, mais qu'on a quelque chose d'adapté et qui, de saison après saison, prend note des nouvelles conditions et essaye de s'adapter. Je veux dire, c'est ça la capacité formidable du végétal et de la vie dans son ensemble, c'est de s'adapter à son environnement. En voulant normaliser tout ça, finalement, on lui empêche sa meilleure solution, à savoir... La variété dite population qui va s'hybrider finalement, mais qui va garder une productivité adaptée à son terrain, à son climat et aux usages qui en sont faits.
Oui, c'est vraiment étonnant de voir à quel point les semences qu'on reproduit nous à la ferme s'adaptent vite. Moi, je pensais vraiment pas que l'adaptation se ferait si rapidement. Nous, on n'est pas installés depuis très longtemps et pourtant, on constate déjà que nos semences... Vraiment, on peut le voir à l'œil nu, quoi. Dès le semis, on voit réellement les différences sur la levée, sur la forme des plantules sur... vraiment, c'est spectaculaire. Et c'est vrai que cette mémoire qu'a la graine qui est transmise par ses parents, tous les travaux qui ont été menés là de manière relativement récente sur l'épigénétique, justement, tente à démontrer que cette adaptabilité-là et cette transmission, en tout cas, de cette mémoire spectaculaire.
Et comme tu le disais, les semences paysannes, c'est lié à un savoir-faire. Et il me semble que c'est quand même un savoir-faire primordial du paysan de savoir sélectionner sa semence, de savoir la reproduire.
Oui, savoir la battre, savoir la trier, arriver à quelle plante on sélectionne. Enfin, toutes ces questions autour de la sélection à la ferme, et c'est un construit collectif. C'est quelque chose qui est évolutif, qui... On vit avec nos plantes vivent avec nous et on coévolue ensemble et avec aussi avec nos collègues et les différentes personnes qui nous entourent. Donc cette co-construction-là et cette coévolution-là, elle est intéressante aussi parce que oui, il y a du social dedans.
Et en termes d'empreinte sur le vivant, c'est un pouvoir fou qu'a le paysan et que du coup, à travers ces hybridations et le fait de... Enfin, il a été dépossédé de ce pouvoir-là par ces grandes boîtes qui le font à sa place. Et pas de... enfin, c'est un peu mortifère quoi, comme logique, la logique de ces boîtes, de te filer des graines qui ne sont valables qu'une année.
C'est une logique économique et relativement capitaliste.
Donc mortifère.
Rentabilité avant tout. Pour finir là-dessus, j'ai envie de dire de ne pas perdre de vue, parce que quand on est néophyte et qu'on a juste envie d'avoir 10 tomates dans son jardin... On n'envisage pas de faire ses graines parce qu'on ne sait pas le faire, parce que ça paraît compliqué. Est-ce que le collectif des semeurs, l'Audévois-Larzac, vous organisez des formations pour apprendre aux gens à faire eux-mêmes leurs semences, ou est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent de ce type-là ?
Alors oui, sur les bourses d'échange et les choses, les différentes manifestations qui sont organisées par le collectif, il y a des démonstrations, oui, de battage, de semis. Pour tout public, hein, c'est vraiment...
Ou de récolte, je ne sais pas, la tomate, on ne la bat pas, par exemple, et comment...
Non, effectivement, on l'a fait fermenter. Mais il y a des ateliers qui sont proposés, oui, pour comprendre un petit peu comment on sélectionne et comment on en arrive à la semence.
Il y a un petit guide assez facile d'accès aussi, qu'on peut trouver lors de ces bourses d'échange.
Qui s'appelle ?
Je ne sais plus,
mais qui parle de ces techniques.
Après, je suis sûr que ces ressources existent si vous tournez vers le RSP, le réseau des semences paysannes, qui eux ont des salariés dédiés pour mettre de la ressource en ligne. Je dis ça, c'est pas du tout. Je sais que vous avez un semeur au niveau du collectif, mais vous avez un semeur. Vous avez un site internet des semeurs du Lot-et-Vois-Larzac, mais vous avez pas forcément de personnes référentes et qu'il est pas forcément mis à jour. Au niveau du RSP, donc, qui est le groupement national de tous ces collectifs qui travaillent sur le vivant, sur la graine paysanne, sur la semence et sur finalement la sauvegarde d'une culture paysanne. Voilà, il y a de la ressource en ligne, vous pouvez trouver ces infos et puis n'hésitez pas à contacter le collectif quand même ou aller les rencontrer. On va en parler, on arrive bientôt à l'agenda.
Bah d'ailleurs, c'est une très belle transition, non ? De dire que...
Si personne n'a rien à rajouter.
Voilà.
Moi je voulais juste peut-être dire un mot sur le RSP. C'est vrai que le RSP c'est un réseau national qui regroupe 80 ou 90 associations, qui est un réseau qui est assez important pour la sauvegarde de la biodiversité cultivée et des savoir-faire et du patrimoine qui tourne autour de ça. C'est vrai que le RSP, dont le collectif est membre, fait un gros travail, que ce soit sur le terrain ou de lobbying, pour être clair, sur les actions politiques. Et c'est vrai que c'est encourageant de voir qu'on n'est pas seul déjà et que des gens se mobilisent et arrivent à faire changer certaines choses de ce point de vue-là, et notamment sur la dernière loi de biodiversité. Maintenant, les amateurs et les non-professionnels, en tout cas, ont le droit de s'échanger des graines, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ces évolutions-là qui arrivent à se traduire dans le texte législatif me semblent aussi importantes.
Ah bah oui, c'est sûr que c'est une entrée importante et que le travail du RSP pour ça me paraît remarquable, dans le sens où ils évitent pas ils refusent pas tout en bloc, ils vont vraiment à la confrontation et ils essayent de faire de voilà, ils se positionnent en groupe de pouvoir et ils essayent de faire avancer ça du côté du vivant, du côté de la culture et du côté de l'autonomie et de donner à chacun les moyens de sa production. Voilà, j'étais très content d'évoquer tout ça avec vous aujourd'hui. Tu voulais rajouter
comme tu disais vraiment, moi j'encourage tout le monde à aller sur le site du RSP, il y a des ressources documentaires, il y a beaucoup d'informations, il y a des guides pratiques, il y a énormément d'informations très très intéressantes et allez-y, c'est une très belle plateforme.
Voilà, on va enchaîner avec l'agenda parce que l'heure tourne.
Alors l'agenda, on pourrait le faire de manière chronologique, mais pour rester sur cette idée de rencontrer, les semeurs, pays arbres, de pouvoir poser vos questions et de rencontrer des personnes ressources, vous pouvez venir au marché aux fleurs qui aura lieu le 10 mai. Sur l'esplanade devant la préfecture. Et donc c'est un moment où seront présents des pépiniéristes, des associations, il y aura de la discussion, et là vous pourrez aussi rencontrer plein de monde intéressant.
Mais vous rencontrerez surtout effectivement toutes les associations du territoire qui ont un œil sur l'environnement. Ce marché aux fleurs, depuis maintenant, ça va être la 3e édition. On le co-organise avec la municipalité lodévoise. On les remercie de nous avoir contactés à cet effet-là. Et c'est vrai que, avec les commerçants aussi de l'Odève, c'est vrai, il y a une belle synergie, je trouve, sur ce marché aux fleurs. C'est pendant la Saint-Fulcran, c'est férié. Et c'est vraiment vous aurez toutes les, il y a Terre en Partage qui est avec nous. Les semeurs du Lodévois-Larzac qui sont avec nous dans le studio, qui seront avec nous pour l'organisation ce 10 mai. Humus Sapiens Pays d'Oc qui travaille autour de la permaculture, on les a déjà présentés, vous les connaissez sur cette antenne, ils animent aussi des chroniques. Et les quatrièmes, j'ai un trou soudain, les jardins partagés que j'ai cités.
Jardin, pays d'arbres,
c'est nous les quatrièmes, c'est pays d'arbres, voilà. Et donc on est très content de co-organiser ça avec la municipalité qui commence à se poser des bonnes questions, je trouve. Moi je soutiens beaucoup l'idée de commencer à refleurir le centre-ville, d'envisager de faire des petits trous dans le béton et d'y faire pousser des plantes. Voilà, je les félicite pour cette ouverture et ce nouveau départ.
Donc ça, ce sera le 10 mai sur l'esplanade, le marché aux fleurs.
Oui, et puis il y a des animations pour les jeunes. Mmh. C'est vraiment très familial, comme vous trouverez de quoi, évidemment, des plants de toutes sortes, des fleurs, comme son nom l'indique, mais aussi, effectivement, des producteurs.
Je voulais juste rajouter que le collectif aussi a organisé une bourse d'échange de graines et de plants à cette occasion.
Donc c'est aussi l'occasion, si vous êtes déjà producteur de semences, que vous savez comment ça marche, de venir en échanger. Sinon, ça sera l'occasion de récupérer un peu de documentation. Il y a des mini-conférences aussi qui sont portées par toutes les associations, donc sur les thématiques qui nous préoccupent et qu'on aime aborder avec vous, à savoir le compost, le sol, la semence, encore une fois. Voilà. Tout ça, c'est le jeudi 10 mai sur l'esplanade.
Un peu en amont, pour revenir dans l'ordre chronologique, le 22 avril, au CLAP. Donc le 22 avril, c'est un dimanche, et le CLAP, c'est l'immeuble collectif 9 Avenue d'Enfer. Vous pourrez assister à une conférence gesticulée qui s'appelle « Du tracteur à l'âne » de Marc Pion. Est-ce que tu veux en dire un mot, Tanguy, toi qui as dû participer à l'organisation du truc ?
Eh ben, c'est-à-dire, oui, c'est quelque chose qu'on porte avec l'association, en collaboration avec le CLAP, qui est l'immeuble collectif où nous avons nous-mêmes nos bureaux, qui est un lieu assez dynamique, qui mélange plein d'entrées culturelles et sociales. Et ce dimanche 22, on reçoit une conférence gesticulée. Donc la conférence gesticulée, c'est vraiment un moment de partage de savoir, qui est toujours sur une... il y a du singulier et du pluriel, si je puis dire. C'est des gens qui font un peu des analyses sociétales à travers leur parcours. Et donc là, c'est le parcours d'un paysan, fils de paysan, qui est arrivé sur l'exploitation de ses parents, qui travaillait en conventionnel avec des tracteurs et qui a remis tout ça en cause, qui est revenu à un travail un travail du sol non machiné, machinique.
Mécanisé.
Mécanisé, voilà, j'y arrive. Et qui aujourd'hui travaille avec des ânes et qui, pendant une heure et demie... retraverse son parcours pour poser toutes les questions que ça pose et partager ça avec le public. C'est souvent des moments d'échange intéressants. Je vous invite vraiment à rejoindre l'aventure et à venir voir Marc Pion ce dimanche 22 au CLAP.
À 20h30, le 25 avril, qui est un mercredi, donc jour des enfants comme on dit, Il y a une balade familiale qui est organisée par... alors, est-ce que c'est le musée ? Est-ce
oui, c'est la collectivité, c'est le musée de l'Audev. En tout cas, c'est en collaboration avec les animatrices conférencières du musée de l'Audev qui m'ont appelé pour avoir un petit peu une ouverture arborée sur la visite du domaine de Montplaisir, qui est ce grand domaine à la sortie de l'Audev quand vous allez vers Bédarieux.
Juste la maison du Russe.
Face, la maison du Russe, juste en face de la route des plans, vous avez ce grand bâtiment, et ben derrière il y a un domaine qui est somptueux, un domaine fait d'eau, d'arbres et d'architecture, et on va parler un peu de tout ça, c'est vraiment, c'est pas du tout une balade spécialisée, on va vous raconter plein de petites histoires sur la botanique, l'historique de ce domaine de Montplaisir.
C'est le 25 avril, c'est à quelle heure et où est-ce qu'on réserve ?
Alors on réserve auprès de l'Office du Tourisme, dont j'ai pas le téléphone évidemment, parce que j'ai bien préparé cette émission, mais vous aurez pas de mal à le trouver.
Il est sur la place.
Oui, il faut réserver et on va se balader un peu, du coup prévoir des bonnes chaussures. Oh, joli coup, il y a Cédric en régie qui me donne le numéro de l'Office du Tourisme de l'Odev. C'est le 04 67 88 86 44.
Oh, c'est formidable.
C'est ça d'être une équipe. Hein.
Et donc c'est le 25 avril, en début d'après-midi, j'imagine 14h, 14h30, quelque chose comme ça.
14h.
Bravo. Le 25 avril, le 26, toujours, il se passe des choses à l'Odev et cette fois-ci... Marie, veux-tu nous parler de cette Assemblée Générale ?
Oui, donc c'est l'Assemblée Générale de la Confédération Paysanne de l'Hérault qui se tiendra donc le 26 avril dans les bâtiments de la communauté de communes. Donc l'après-midi, on organise un débat avec pour thème le foncier.
Donc c'est ouvert
à tout le monde.
Donc la matinée, c'est plutôt statutaire, nanana.
Exactement.
Réservé aux adhérents. Et l'après-midi, c'est ouvert à tous. C'est à partir de 14h aussi, quelque
chose comme
ça ?
À partir de 14h, oui.
Okay. Débat sur le foncier au cours de l'Assemblée Générale de la Confédération Paysanne de l'Hérault.
Il y a de quoi dire. Hein.
Est-ce qu'il y a encore une dernière chose ? Nous, on a fait le tour, à ce que je vois. Voilà. C'était l'agenda et les prochains rendez-vous à venir.
Eh ben oui, c'est terminé pour ce mercredi. Et oui, déjà, vous avez vu, ça passe vite, surtout quand on est nombreux dans le studio. Je tiens à remercier chaleureusement Antoine et Marie.
Merci.
Du collectif des Semeurs, l'Audévois et l'Arzac.
Et des Jardins de Cériès.
Je tiens bien évidemment à remercier Cédric à la technique et l'ensemble de l'équipe de Radio Lodève.
Merci Radio Lodève.
Une pensée pour Damien et Anne qui nous accueillent toujours avec le sourire.
Et le café.
Et parfois le café, suivant les heures. On n'est pas en direct. Hein. T'as tué un mythe, on ne boit pas du café à 20h, Raphaël. On n'est pas en direct, donc des fois on a le café. Merci à tout le monde, merci de votre écoute. À bientôt, au mois prochain. C'était Du Bruit dans les Feuilles.
Merci.
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 Et on se quitte avec Laurent Voulzy et Le Pouvoir des Fleurs.
Écoutez en rêvant la petite fille autour de disque fort.
sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants. Oh, tant de choses à faire, moi pour vous.